Dominique Paquet, vous êtes philosophe et également comédienne et dramaturge. Vous nous faites le plaisir de venir à Rennes aujourd'hui dans le cadre des Rencontres d'Histoire. Aujourd'hui, du coup, vous animez un débat sur notre rapport à l'apocalypse. Et ça tombe bien aussi, car aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la philosophie. Je ne sais pas si vous saviez, mais on est ravis en tout cas de pouvoir philosopher avec vous. Tout d'abord, je voulais vous demander pourquoi avoir accepté d'animer sur ce sujet particulier des apocalypses. Est-ce que c'était une thématique sur laquelle vous avez déjà travaillé ?
J'interviens à Rennes au Champ Libre depuis 16 ou 17 ans. J'anime des cafés philo avec des publics soit jeunes, soit adultes. Et donc, ce café philo rentre dans un contexte particulier, les journées consacrées à l'histoire. Quant à la thématique, elle est à la fois une question qui m'interroge depuis longtemps, c'est-à-dire pourquoi certains choisissent-ils un ton et des propos et des sujets apocalyptiques pour conduire les foules, c'est-à-dire comment certains gourous arrivent à manipuler l'opinion publique par un discours apocalyptique. Et puis, dans un contexte plus général et qui a commencé avant la pandémie, avec notamment les chercheurs en collapsologie, cette question est entrée sur le devant de la scène, notamment en raison du réchauffement climatique, de la sixième extinction des espèces et d'une certaine fin du monde, entre guillemets, de quel monde s'agit-il, c'est ce dont nous débattrons ce soir.
D'accord. Est-ce qu'on peut, avant toute chose, préciser le concept de fin en philosophie, peut-être le définir ?
Les fins dernières, c'est la fin des univers et ça rentre dans une pensée plus générale du déclin, qui est une pensée qu'on trouve chez Platon dans le livre 6 de la République, où Platon analyse le trajet du déclin depuis les débuts de l'humanité, hein, ce qu'il considère comme les débuts de l'humanité, et notamment en mettant l'accent sur la dégradation morale et politique des humains. Donc il aborde une succession de régimes politiques qui, de l'aristocratie jusqu'à la tyrannie, va conduire une société au déclin, en passant par la démocratie, qui est un moment du déclin également.
D'accord, donc il questionne pas mal en fait la fin de l'humanité, peut-être plus que la fin
de l'humanité, la fin d'une civilisation. Il en parle aussi avec l'Atlantide, Platon, hein, dans deux dialogues. Mais d'autres penseurs, notamment les chrétiens, ont également pensé la fin des temps, la fin d'un certain monde, et on trouve l'Apocalypse dans l'Apocalypse de Jean et dans bien d'autres textes de cette époque, à savoir la fin d'un monde et l'ouverture sur un autre monde, un messianisme par exemple, avec le règne du Christ pendant 1000 ans, mais on trouve aussi un discours apocalyptique pendant le Troisième Reich, avec l'espoir d'un Reich de 1000 ans, un autre, entre guillemets, messianisme, un messianisme délétère, pervers, nazi, qui est le règne d'un fureur pendant 1000 ans, en quelque sorte.
Et est-ce qu'il y a des grands courants de pensée en philosophie, justement, pour questionner cette notion de fin de l'humanité, de fin du monde, d'apocalypse ?
Oui, vous en trouvez tout au long de la philosophie, vous en trouvez également chez saint Thomas, vous en trouvez chez Blaise Pascal, hein, d'une certaine manière. Ensuite, Montesquieu aussi a réfléchi là-dessus. Et puis on arrive à Nietzsche, bien sûr, au XIXe siècle. Il y a aussi toute une pensée du pessimisme avec Schopenhauer. Mais l'idée de progrès que les Lumières impulsent va battre aussi en brèche la question du déclin.
Oui.
Et oui, parce que le progrès est ce qui, évidemment, contre le déclin, ou le retourne, ou essaie de l'éliminer. Mais le déclin est inscrit dans le mouvement général de l'univers, dans le cosmos, hein. Nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous naissons, nous grandissons et nous déclinons.
Et justement, est-ce que ça ne vient pas questionner aussi notre rapport à la mort? Parce que c'est une question qui a été énormément abordée en philosophie.
Bien sûr. Alors, cette fascination de l'apocalypse, c'est une réflexion sur la fin, les fins dernières, hein, ce qu'on appelle l'eschatologie. C'est aussi une réflexion sur sa propre fin, mais sur ses transformations, sur l'espoir d'une vie meilleure. Et si on se tourne vers la thèse freudienne, on peut se dire que cette fascination des apocalypses est peut-être l'effet de Thanatos, à savoir une fascination pour la mort. Est-ce que dans la fascination pour la collapsologie, pour la fin des mondes, en ce moment avec la pandémie, le monde d'après, etc., est-ce qu'il n'y a pas aussi une fascination, une peur, une angoisse? Pourquoi pas plaisir aussi? Il faut questionner le plaisir de l'apocalypse. Mmh. Pour la mort, c'est fort possible. On va voir ce soir ce qu'il en est. Oui.
Et je me demandais, est-ce que ça vient...
Je me suis trompée tout à l'heure, pardon, je vous ai parlé de saint Thomas. C'est saint Augustin. Hein,
oui.
Je vous ai dit une pensée du déclin. C'est saint Augustin qui a pensé la cité de Dieu par rapport à la cité terrestre. Voilà. Je rectifie.
D'accord, merci. Et je pense que ça vient aussi peut-être rassurer l'être humain quant à ses imperfections, puisqu'il y a pas mal de catastrophes qui sont aujourd'hui d'actualité. On parle de réchauffement climatique notamment, qui sont liées directement à l'activité humaine. Est-ce que c'est pas une manière de se rassurer que d'envisager justement la fin et des différents scénarios?
Disons que c'est un moyen de prendre conscience de ces problèmes écologiques, par exemple, ou de ce que l'être humain et son développement dans la société libérale et post-libérale provoquent sur les espèces végétales, animales, et même sur l'atmosphère, enfin sur toute la planète et sur le cosmos, hein, avec les déchets qui sont dans le cosmos, par exemple. C'est une manière de s'interroger. Soit on se laisse glisser dans le désespoir, et par exemple, on peut aller jusqu'à se suicider. D'autres personnes pensent que la démographie est trop importante et s'interdisent de faire des enfants. Hein, il y a un courant de dénatalité pour certaines personnes, c'est un choix. C'est aussi une façon, après cette prise de conscience, de se dire qu'est-ce que je fais et de passer à l'action. Et d'arrêter de fantasmer les fins dernières, de se faire peur et d'être totalement inutile par rapport à un possible changement de braquet.
Et on parlait tout à l'heure de religion aussi, de la manière dont ça a été énormément abordé par la conception eschatologique, notamment des religions, des grandes religions monothéistes. À quel point elles ont participé à répandre cette idée de fin du monde? Et quel impact ça a encore aujourd'hui dans l'art?
Je ne sais pas si c'est... elles ont contribué... Oui, certes, elles ont produit des courants artistiques. Et il y a une esthétique de l'apocalypse, qu'elle soit littéraire, plastique, picturale, qu'elle soit cinématographique. On trouve un corpus apocalyptique dans énormément d'art. Et c'est une source de plaisir, c'est ça le paradoxe. Hein. Mais je ne sais pas si ce sont les religions qui ont contribué ou si la question de l'apocalypse, du vent des fins dernières, de l'effondrement, n'est pas présente dans l'être humain comme à la fois sa plus grande peur, parce que lui va vers l'apocalypse, va vers sa mort, hein, l'être humain est pour la mort, d'ailleurs, nous allons vers notre propre apocalypse. Mais en même temps, nous avons plaisir à la produire. Je parle du bousillage dans mon introduction au Café Philo de ce soir, parce que bousiller ou détruire, l'enfant déjà le fait dans sa chambre. Il a aussi plaisir à détruire ses jouets. Parce que l'expérience de la destruction est une expérience qui montre comment tout se délite, et c'est assez fascinant, comment aussi on peut reconstruire. Donc, il s'agit d'une poésie, on dirait en grec, c'est-à-dire d'un passage du non-être à l'être. Il n'y a pas grand-chose, mais je vais créer quelque chose, ça c'est la création. Et en même temps, la décréation, c'est passer de l'être au non-être. Et c'est ce que nous faisons aussi dans notre vie organique. nos cellules disparaissent sans cesse. Donc, c'est quelque chose de profondément organique pour moi. Mmh. Donc, c'est antérieur aux religions.
D'accord. Et parmi les grands effondrements que l'humanité a connus jusqu'à présent, enfin en tout cas les grandes catastrophes, il y en a eu pas mal, notamment des catastrophes naturelles. On parlait d'épidémies, il y a notamment eu la peste noire, la grande peste noire qui a détruit presque un tiers de l'Europe entre 1347 et 1352. Il y a aussi bien sûr eu l'éruption du Vésuve à Pompéi. Il y en a encore d'autant plus aujourd'hui. Comment ça vient aussi questionner notre rapport à la nature, notre place ? Par rapport à la nature, on n'est pas quelque part impuissant face à la nature ?
Dans notre société contemporaine, nous aurions avec orgueil plutôt l'envie de nous sentir supérieurs à la nature. Mmh. C'est-à-dire que le biologique, par exemple, et puis ce qui nous régit de manière cosmique, ce qu'on peut dire que la nature, c'est l'ensemble du cosmos, hein, nous aurions envie de le dépasser et de nous croire supérieurs. Or, vous avez raison, nous sommes régis par des lois naturelles qui, pour l'instant, ne peuvent pas être transgressées. Peut-être qu'elles le seront, hein. Mmh. On ne sait pas. Mais en tout cas, certaines lois naturelles, comme ce sont des lois, elles ne peuvent pas encore être transgressées. Et notre finitude nous apparaît sans cesse. Alors, nous oscillons entre l'humilité et un orgueil démesuré. Et c'est vrai que des grandes catastrophes peuvent nous rendre humbles. Et que ces passages par une certaine humilité n'est pas inutile pour contrebalancer un orgueil surpuissant que l'on voit quotidiennement, dont on voit quotidiennement les effets dans la gouvernance mondiale ou dans la gouvernance nationale dans certains pays ou même dans des gouvernances économiques.
Il y a aussi beaucoup de catastrophes qui sont liées à l'activité humaine, hein, bien sûr, tout ce qui relève des guerres, la disparition de civilisations dans le passé, des explosions comme Tchernobyl.
Oui, Hiroshima avant. Hein.
Et Hiroshima, bien sûr, Nagasaki, ouais. Comment on peut expliquer que l'humain ne cesse de répéter ce schéma malgré le fait que ce soit nocif pour lui et qu'il y ait une espèce d'autodestruction malgré tout ? Pourquoi aller vers cette autodestruction ? Pourquoi ne pas prendre du recul et tirer un peu des leçons de ces événements ?
Si on raisonne à l'échelle de l'univers, nous vivons aussi dans un univers anthropique, hein, c'est le deuxième principe de la thermodynamique. Nous produisons du désordre, le cosmos produit du désordre. Il y a à notre petite échelle singulière individuelle un désordre intérieur également. Donc le désordre est inscrit en nous. Nous cherchons l'ordre toujours et quelquefois avec des effets totalement délétères. Nous cherchons à construire l'être humain. Est assez émouvant d'ailleurs dans son histoire, dans cette volonté de construire le progrès, de construire un meilleur statut pour les êtres humains, puis maintenant en ce moment pour les animaux par exemple et pour la nature, mais en même temps il est miné sans cesse par le désordre. Alors après vous posez la question de la fascination et peut-être même, je vais plus loin, de la complaisance à détruire, hein, parce qu'il y a, dans la destruction, c'est terrible à dire, mais il faut l'avouer, de la jouissance. Mmh. La jouissance de la domination sur l'autre, sur un objet, de l'appropriation, et cette jouissance-là, comment la détruire ? Alors parfois, on y parvient avec un travail sur soi, que ce soit philosophique, psychanalytique ou par d'autres techniques de méditation. Mais nous avons, nous, inscrit ce plaisir, cette jubilation de la destruction. Et regardez, par exemple, un penseur comme Cioran. Il y a une jubilation à penser le nihilisme chez Cioran. C'est même une source d'humour. Mmh. Alors, il ne va pas jusqu'à la destruction physique. C'est une création littéraire et ensuite... cela peut faire l'objet d'une réflexion philosophique, Cioran. Mais il y a une jubilation. Chez Beckett, chez Samuel Beckett, par exemple, il y a aussi une jubilation de la destruction.
Oui, donc c'est quelque chose qui est quand même assez récurrent.
Oui, il y a une jubilation de la destruction. Alors, bien sûr que tous les êtres humains ne tombent pas dans cette fascination, dans ce plaisir-là. Mais le fait de détruire des populations, de détruire en masse des ethnies pour des raisons supposées économiques, politiques, raciales, ethniques, moi je me demande si le fait de perpétuer ces actes ne procure pas un plaisir pour que ça continue autant. Si nous étions saisis d'horreur dès le premier meurtre, par des réactions physiques, hein, d'impuissance, de vomissement, d'évanouissement, nous arrêterions de nous battre. Or, nous continuons. Il y a un dépassement de soi dans la violence, hein. Il y a un plaisir d'un héroïsme futile, délétère, mais la dimension du plaisir existe. C'est quand même la version cauchemardesque de l'humanité.
En tout cas, ça soulève des questionnements passionnants. Je vous remercie, Dominique Paquet, d'avoir répondu.
C'est une question très pertinente.
Tant mieux. On vous retrouve ce soir à 18h30 au Champ Libre pour aborder cette question de notre rapport à l'apocalypse avec le public. Donc venez nombreux, n'hésitez pas. Et puis encore merci à vous, Dominique Paquet.
Merci, bonne journée, à tout à l'heure.